Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour monsieur Jean-Frédéric Poisson.
Bonjour, bonjour à
alors,
tous.
Alors vous êtes patient et ravi de vous retrouver. Et puis vous restez avec nous jusqu'à vendredi. Et puis je conseille donc cet ouvrage paru aux éditions MAM, Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie. Alors bien sûr avec vous cette semaine on parle de ces soins palliatifs. Ces soins palliatifs on l'a bien compris, mais il est bon quand même d'en parler, de redire que ces soins sont faits pour soulager la douleur, accompagner la douleur qu'on vit jusqu'au bout et qu'il y a toutes ces équipes de soignants et de bénévoles dont vous avez parlé, mais vous allez répondre à une question. Hein, voilà. Et cette question, monsieur Poisson, c'est que aujourd'hui, notre humanité semble partir un peu à la dérive. Des guerres, des famines, un épisode aussi en 2020 d'un Covid qui fut aussi un lieu d'enfermement pour beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette humanité, ce grand combat de l'humanité? Puisqu'on parle de la mort, on parle aussi de la vie. Vie et mort l'une dans l'autre, le bien et le mal. Qu'est-ce que ces lois sociétales qui sont passées, et là je pense à notre pays, la France, nous disent aussi de notre humanité?
Elles disent que, ce qui n'est pas une surprise, au fond, qu'à chaque fois qu'on s'éloigne de Dieu, tout le monde trinque. Pardon de le dire de manière directe et triviale, mais c'est exactement ce que je pense. On ne s'éloigne pas de Dieu impunément. Alors on n'est pas obligé de passer sa vie la tête dans le tabernacle, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a un minimum de formalisme social, si j'ose dire, inspiré des règles divines, du décalogue, tout simplement. Ça commence par là. Dire, imaginez une société dans laquelle le décalogue serait intégralement respecté. Ça changerait déjà beaucoup la vie, reconnaissez. Donc, indépendamment de la foi, le bon Dieu, d'ailleurs c'est dans les épîtres de saint Paul, si vous voulez comprendre le bon Dieu, regardez la nature. Donc simplement en s'inspirant de l'ordre naturel, indépendamment de la foi, encore une fois, la foi c'est autre chose, la foi ça porte sur la résurrection du Seigneur, c'est autre chose. Mais simplement ça, ce qui se joue c'est l'éloignement, l'homme est confronté aux conséquences de ses propres choix, alors, pas les miens, pas les vôtres, pas ceux de beaucoup de nos auditeurs certainement, des choix collectifs si j'ose dire, majoritaires, d'avoir considéré que Dieu n'avait rien à nous dire, aucun enseignement à nous donner et aucune règle à nous imposer. Et l'état du monde qui en résulte, c'est grosso modo celui que nous avons sous les yeux. Alors il n'y a que deux solutions, mais là encore, la tradition chrétienne nous a prévenus, beaucoup de philosophes aussi nous ont prévenus, il n'y a pas que les chrétiens, il n'est pas nécessaire d'être croyant pour voir ça. Il suffit de faire usage de sa raison naturelle pour considérer que quand vous maltraitez l'être humain sur le plan social ou sur le plan de son intégrité physique, tout le monde en pâtit. Quand vous entrez dans le consumérisme généralisé, bah vous maltraitez la nature, et si vous maltraitez la nature, bah vous allez moins bien, parce que vous êtes vous-même partie de la nature. Quand vous instaurez le mensonge comme règle de vie sociale, vous détruisez le corps social. Quand vous traitez les victimes moins bien que les coupables, vous violentez l'ordre social. Ça ne peut pas aller bien. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc ces règles de bon sens, comme on les oublie, ben, ma foi, on en tire les conséquences. Et vient se greffer là-dessus ce rapport particulier à la vie dont on a perdu de vue la valeur, au point qu'on puisse dire des phrases comme « un tel a perdu sa dignité ». Comment c'est possible, ça? Si on est digne parce qu'on est une créature de Dieu, c'est ce qu'on pense quand on est croyant, comment est-ce qu'on peut perdre sa dignité? Ça, c'est pas possible. Alors je vois bien ce que veulent dire les gens. Il n'est plus en capacité de poser tous les actes qu'une personne en pleine capacité de ses moyens peut poser. Bah oui, mais enfin c'est pas ça la dignité. La dignité, c'est pas de courir le 100 mètres en 10 secondes. C'est d'être capable de courir, c'est pas la même chose. Si vous êtes empêché de courir, c'est pas pour ça que vous avez perdu la capacité, vous êtes encore digne. On doit encore vous respecter, même si vous n'êtes plus capable de courir le 100 mètres qu'en une minute et demie, ça n'a pas d'importance. Un tel est devenu un légume. Vous vous rendez compte de la violence de cette phrase? Arrêtons-nous deux secondes. Un légume, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre une carotte et la personne que j'ai en face de moi sur l'île d'hôpital, il n'y a pas de différence. C'est une blague. Donc, et ça passe dans le langage courant de manière presque évidente. Comme s'il pouvait y avoir deux types d'êtres humains, ceux qui sont dignes, d'un côté, et d'un autre côté, ceux qui ne le sont pas ou qui ne le sont plus. Ça, c'est pas possible. Et le monde moderne repose en fait sur cette fracture. Il y a des êtres humains personnes, comme disent les bioéthiciens américains, et des êtres humains non personnes. Quand vous commencez à rentrer là-dedans, tirer la pelote, nos auditeurs vont le faire très facilement, imaginez tout ce qu'on peut en tirer comme conséquences sociales, politiques, et vous allez rapidement tomber sur des régimes politiques absolument pas sympathiques qui ont fondé leur organisation sur ce constat.
Dans cette réflexion autour de notre humanité et puis ce début de vie, finalement, on parle de l'humain. Quand on parle aussi de cette fin de vie et des soins palliatifs, Monsieur Poisson, il y a ce respect du début de la vie et puis de cette fin de vie. Où en est l'homme dans sa conscience? Est-ce que l'humanité devient paresseuse? Est-ce que l'humanité individuellement, non pas collectivement, mais individuellement, et là je pense aux auditeurs, aux auditrices qui vous écoutent, qui n'ont peut-être pas, même en écoutant des radios chrétiennes, le même positionnement que vous sur la défense de la vie, et la défense aussi de respecter la vie jusqu'au bout. Est-ce qu'on devient paresseux? Est-ce qu'on se laisse facilement peut-être manipuler ou gouverner? On ne pense plus par soi-même, on se laisse conduire sans prendre du recul. Et au fond, y a-t-il aussi une quête de vérité? Où j'en suis, personnellement, dans cette recherche de la vérité? Et c'est quoi, au fond, la vérité,
hein? C'est la question.
Vous êtes un philosophe aussi,
permettez-moi. C'est la question que le Seigneur posait. C'est une question qui est dans le dialogue entre le Christ et Pilate.
Tout à fait.
C'est important, cette question de la vérité, mais c'est vrai que beaucoup de choses sont faites dans ce monde moderne pour... je crois pas que les gens soient paresseux. Je crois pas ça. Je crois que, ils sont plus ou moins invités, ce que vous évoquiez, à chercher la vérité, à comprendre, parce que ça demande des efforts, ça c'est vrai. Mais on nous a tellement invités à considérer que, ma foi, il suffit de consommer, tout ira bien. De quoi vous inquiétez? Vous avez de quoi manger? De quoi partir en vacances?
Une manière de manipuler des populations?
Oui, bien sûr, parce que ça nous écarte de l'essentiel. C'est ce que Blaise Pascal appelait le divertissement, divertir au sens étymologique, c'est-à-dire détourner. Nous détourne de l'essentiel. Donc c'est pas... Alors peut-être qu'on peut se laisser faire, peut-être que... on sait que... La vie humaine est un sport difficile quand même, donc de temps en temps, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, pas comme on veut, pas tout ça. Mais je crois qu'effectivement, il y a une espèce de... l'avantage, entre guillemets, de ces derniers moments d'être confronté à la fin de sa propre existence, c'est que ça replace devant des perspectives qu'on ne peut plus écarter. Il y a un moment de vérité qui se joue là, et on ne peut pas y échapper. C'est pour ça que les philosophes disaient « philosopher, c'est apprendre à mourir », c'est ça que ça veut dire. On n'a pas moins peur que les autres, mais simplement on sait que il va falloir se préparer à ce moment-là qui est le moment le plus important d'existence en réalité. Et que si effectivement on n'a pas essayé de comprendre un peu ce que c'est que la vie humaine, à quel type de fin ou à quoi on est promis en termes de destinée, si on ne comprend pas, si on ne comprend pas à sa propre mesure, il ne s'agit pas de faire des thèses ou des bouquins, mais voilà, il faut un minimum de conscience. De ce que nous faisons ici et du fait que ça va se terminer un jour et qu'il faut préparer le moment où ça se termine, parce que ça se termine ici mais ça ne s'arrête pas là. Et ça, c'est le grand mensonge de la modernité. Nous avons une âme immortelle. Ça n'est pas une question de foi. Les philosophes grecs, qui n'avaient pas la foi chrétienne pour des tas d'excellentes raisons, étaient déjà parfaitement convaincus et ont démontré que nous avions une âme spirituelle, donc immortelle. Et le premier enjeu de l'existence, c'est d'en prendre soin. Il y a quelqu'un qui me demandait un jour, qu'est-ce que vous diriez pour expliquer que vous avez la foi et que vous l'entretenez? On dit que j'ai reçu la foi et que j'essaye de l'entretenir, c'est un peu différent. Je dirais que mon âme est immortelle et que j'ai pas envie de brûler en enfer. C'est aussi simple que ça. Voilà. Mon âme est immortelle. Je survivrai, d'une certaine manière, à ma mort. Terrestre. Donc je dois prendre soin de ce que je serai après. Je regrette d'ailleurs qu'on n'entende pas ça plus souvent, par exemple à l'office. J'invite à chaque fois les prêtres à rappeler un peu ce qu'on appelle les fins dernières, parce que c'est quand même là, c'est pour ça qu'on est là. Et les soins palliatifs, la bagarre entre les soins palliatifs et l'euthanasie, c'est aussi une question de fin dernière. Derrière l'euthanasie, la légalisation de l'euthanasie, il y a une désespérance, brutalité, il y a une solitude.
On va en parler peut-être demain, dans la suite. Bien. Voilà, on arrive à la fin de cet échange du jour.
Déjà.
Et oui, ça va vite, mais bon, on écoute, on entend, et donc on est là aussi pour découvrir et puis vous écouter. Très simplement, on rencontre aussi un homme qui est engagé, voilà, en politique, et c'est une manière aussi de servir. Et vous avez parlé tout au début de cette émission, dès lundi, de servir dans l'humilité. N'est-ce pas aussi le propre de tous les apôtres, de tous les prophètes?
C'est la condition humaine.
Et la condition humaine, voilà, qui nous rappelle que nous sommes d'humbles serviteurs, au fond, quels que soient nos lieux de travail. Jean-Frédéric Poisson, je vous propose de retrouver dès demain, même lieu et même heure.